Vous écoutez France Culture.
Pura vida. Vida y muerte de William Walker.
Pura vida. Vie et mort de William Walker.
De Patrick Deville.
Adaptation, Arnaud Bertina.
Troisième épisode.
Une vie sert de fil rouge au narrateur. Celle de William Walker, un aventurier américain qui voulut, en plein 19e siècle, s'emparer du Nicaragua pour y percer le canal interocéanique qui devait faire de lui le maître du monde. Un escroc, un agité, un criminel aux yeux de certains, qui aura eu le mérite d'entretenir l'idée d'une révolution bolivarienne dans ce pays, le Nicaragua, où allait naître en 1895 le général Sandino.
Managua, Nicaragua. Oui. Voilà ce qu'une chanteuse aura peut-être chanté ici. Est-ce que c'est une grange? Un hangar? De quand datent ces cotillons qui pendent tristement et ces serpentins au ton fané? Dans ce bar, la Fragata, je crois encore moins à la beauté de cette ville. Le long du mur, des toucans et des perroquets aux couleurs défraîchies attendent immobiles dans des cages sans ombre. Les perroquets sont de grands araras d'un bleu éteint, le bout des ailes d'un jaune pisseux, pour lesquels on peut facilement éprouver une sympathie décelée. Encore un palier franchi vers la déchéance, une ou deux plumes égarées dans la fiente, et ces psittacidés deviendront des gallinacés pour finir poulet à la mexicaine, le plat le moins cher de la carte, qu'un homme aux mains larges et velues vient de déposer devant moi sur la nappe à carreaux. Par la fenêtre, j'aperçois le côté ouest de l'avenue Simon Bolivar. Elle file en direction du lac Solotlan. Un ouvrier, plutôt qu'un contremaître, a récemment gravé sur le ciment du trottoir, avant séchage, un slogan contre le nouveau président Alemán. Tout autour s'étend une prairie d'herbes rases et jaunies, où des arbustes aux racines encombrées de moellons se tordent sur les décombres du tremblement de terre qui détruisit en 1972 la capitale jamais relevée.
Et la Bank of America?
Aujourd'hui, la Bank of America tiendrait le coup s'il y avait un nouveau tremblement de terre, c'est certain. Mais le reste, non, sans doute pas. Même la cathédrale Santiago n'a sauvé que sa façade et ses murs noircis. Si vous écartez le grillage qui embarre l'accès, vous verrez que l'herbe a poussé entre les colonnes qui sont tombées.
En quittant la Fragata, je suis allé me promener de ce côté-là, où j'avais de toute façon rendez-vous avec l'écrivain Sergio Ramirez. Un chien jaune à la queue coupée renifle les restes d'un feu de camp.
Oublie un peu la cathédrale, veux-tu?
Sergio Ramirez trouve autrement intéressante la statue qui se dresse en face de la cathédrale en ruine. Un révolutionnaire haut d'une vingtaine de mètres qui brandit une pioche et une mitraillette, deux objets dont l'utilisation simultanée peut paraître incommode. Sur la stèle, une citation d'Augusto César Sandino.
Solo los obreros y los campesinos irán hasta el fin.
Seuls les ouvriers et les paysans iront jusqu'au bout.
L'herbe est jonchée de quelques détritus, de papiers et de sacs en plastique que l'air brûlant soulève jusqu'aux pans de murs en ruine, jusqu'à l'amoncellement des bidonvilles qui entourent le lac en direction de l'aéroport Sandino. Extraites de leur contexte, ces citations de Sandino à Managua, comme celle de José Martí sur les murs de la Havane, semblent n'avoir jamais connu le papier. Elles auraient été pensées directement pour le marbre et le burin. La pauvreté passe. Ce qui ne passe pas, c'est le déshonneur.
Du panache et du souffle. Tu dois comprendre que Sandino était un visionnaire autodidacte, habité par des visions superbes. Tiens, on s'assied?
Ouais.
Il a eu le courage de reprendre à son compte les grands projets du siècle précédent. Par exemple, il a voulu creuser le canal du Nicaragua pour concurrencer celui des États-Unis à Panama. Il a voulu recréer la République centra-américaine du général Morazán. En 1929, il va plus loin encore. Il convoque une conférence des chefs d'État à Buenos Aires pour créer l'unité de toute l'Amérique latine. Ah, et puis ça, il rédige les 44 articles d'une constitution idéale qu'il intitule « Plan de réalisation du rêve suprême de Bolivar ».
Mais à un moment, il devient infréquentable et les communistes le lâchent, c'est ça, non?
Les communistes mexicains ont soutenu et financé sa lutte de guérilla au Nicaragua. Mais au début des années 30, ils sont repris en main par le Comintern. Et Sandino devient effectivement infréquentable. Le parti communiste mexicain va même jusqu'à planter un poignard dans le dos des sandinistes. Il publie une plaquette, « La trahison de Sandino », dans laquelle les Mexicains l'accusent de se désintéresser de la lutte anti-impérialiste. Il ne serait attiré que par le pouvoir.
Est-ce que l'histoire n'a pas prouvé le contraire? Il me semble qu'il l'a plutôt négligé, ce pouvoir qui n'avait pas assez de charme à ses yeux. Je me souviens avoir lu qu'en 1933, alors que ses troupes sont en position de force, il négocie. Déjà, ça c'est pas banal. Et qu'est-ce qu'il demande? La garantie d'une région autonome. Quand il l'obtient, l'armée sandiniste dépose des armes et se reconvertit dans l'agriculture.
Reconversion paysanne qu'un ambitieux n'aurait jamais négociée. Oui, tu as raison. Ce dernier Sandino est le plus admirable. Il s'en va défricher les terres vierges du côté atlantique de la Nouvelle-Ségovie et crée la coopérative du Rio Coco. Il est l'utopiste qui rêve la cité idéale de Wiwili, dessine le tracé des rues. Il fait bâtir un hôpital et une cantine populaire. La communauté autogérée cultive le maïs, les haricots et les légumes. Ils pratiquent l'élevage et parviennent vite à l'autosuffisance. Ils développent la production du tabac et du cacao, qu'ils vendent à l'étranger. Les ouvriers gèrent leurs horaires de travail, répartissent les récoltes et abolissent la propriété privée. Ils prospectent les gisements aurifères, creusent un port fluvial, construisent une piste d'atterrissage, une radio, un télégraphe. C'est votre commune de Paris, mais sur le Rio Coco.
Magnifique.
Sandino veut convaincre, sur le seul exemple de la vertu, le président Sacasa de la justesse de ses vues. Il nourrit l'espoir d'étendre pacifiquement sa commune à l'ensemble du Nicaragua, à l'ensemble de l'Amérique centrale, à l'ensemble de l'Amérique latine, à l'ensemble de la planète peut-être.
Et il voit rien arriver.
Le 13 février 1934, il envoie au président Sacasa une lettre accompagnée des premiers cigares de la coopérative du Rio Coco, qu'il lui garantit être déjà meilleur que ceux de Masaya. Et le 21 février 34, figure-toi qu'il se rend lui-même à Managua, avec dans une bourse les premières pépites d'or de la coopérative. Il dîne avec deux de ses hommes en compagnie du président Sacasa et du ministre Salvatierra. L'ambiance est amicale et détendue. On fume les cigares de la Nouvelle-Ségovie. Mais à ce moment-là, Sacasa ne contrôlait plus que son fumoir, ses cuisines et ses salons. Dans la nuit de Managua, les vampires se déplacent à toute vitesse. Et sur le chemin du retour, la voiture des invités du président est arrêtée par 10 hommes de la garde nationale. 10 ou 12.
J'ai compris.
On peut imaginer que Sandino en descend le chapeau à la main, la tête lourde à cause des cigares et des projets d'avenir. Bêtement, peut-être, il va chercher le sauf-conduit du président.
Mais il sera abattu avant d'avoir mis la main dessus.
Oui, Sandino et ses 2 hommes.
Pongan cuidado, señores, lo que le vengo a contar. Haciéndole los honores a un valiente general. Que se redame en la copa una botella de vino. Luchemos porque viva ese valiente Sandino. Le dice Sandino a Sacasa, apretándose la mano. A 10 centavos te vendo cabeza de americano. Dice Sandino a Sacasa, yo no soy general colado, yo no soy vendepatria como la vendió Moncada. Que se redame en la copa una botella de vino. Y luchemos porque viva ese valiente Sandino.
Alors pour revenir à ce parallèle entre les citations de Sandino et celles de José Martí à La Havane, oui, je comprends pourquoi tu dis ça. Mais tu dois aussi mesurer ce côté sentencieux à l'aune des réalisations de Sandino. Et si je te dis ça,
Ce n'est pas en cherchant à dissocier l'histoire récente de la Havane et celle du Nicaragua. Elles sont indissociables, évidemment. Tu m'as dit vouloir écrire sur William Walker, c'est bien ça? Sais-tu que la première mesure qu'il prend, une fois président du Nicaragua, c'est de promettre l'asile politique aux indépendantistes cubains qui auraient besoin de fuir leur île? Lors de sa cérémonie d'investiture, c'est leur chef, le capitaine Francisco Lenné, qui a lu la version espagnole du discours présidentiel. Comme avant lui, Simon Bolivar et Narciso López, William Walker s'est engagé à chasser l'Espagne de Cuba. Un petit flore de cania, ça te dit?
Ah bah pourquoi pas, mais il n'est pas trop tôt.
Non,
pas trop tôt.
Le soir même, j'avais retrouvé Victor accoudé, presque oublié, au comptoir de l'Antorritos, et je lui avais rapporté ma discussion du matin avec Sergio Ramirez.
Il n'a pourtant rien tenté du côté de la Havane.
Parce que tu trouves qu'il n'en a pas fait assez comme ça?
À Cuba, quelques années auparavant, j'avais pu nourrir mon goût pour la stratégie en me penchant sur l'histoire des tentatives de débarquement sur l'île. Les écoles militaires méprisent absolument le sujet, parce que peu d'épopées offrent une accumulation d'échecs aussi impropre à éduquer de jeunes officiers. William Walker avait tout à fait sa place dans cette galerie d'allumés de première et de bras cassés. Victor avait raison de s'étonner. Sur le chemin de l'hôtel Morgut, je lui confessais cette nuit-là une affection particulière pour les tentatives avortées de Narciso López, crapule intégrale, que son incompétence rare rendait pourtant presque sympathique. Son expédition, au milieu du XIXe siècle, s'inscrivait dans ce qu'on appelait alors le « destin manifeste de l'Amérique du Nord », celui de la civilisation blanche et anglo-saxonne, dont la vocation, croyait-elle, était de s'étendre vers le sud. Général d'origine vénézuélienne qui avait combattu en Europe, Narciso López s'était retiré à Cuba, où le jeu l'avait ruiné, puis il s'était réfugié en Floride. Argentin comme Bolivar, décoré de la Grande Croix de l'Ordre militaire royal et de l'Ordre américain d'Isabelle la Catholique, il avait lui aussi trahi la couronne et s'était cru peut-être un instant le Simon Bolivar de Cuba. Il avait attaqué l'île coloniale espagnole pour son propre compte, dans le but d'en faire une république indépendante.
Soldats! 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 Nous sommes 500 à bord du créole. Je vous appelle soldats, mais vous êtes des libérateurs. Regardez la côte du Yucatan. Vous ne la reverrez pas. Et souvenez-vous de cette date. Dans deux jours, nous serons le 19 mai 1850 et nous débarquerons dans la baie de Cardenas, d'où nous commencerons à libérer Cuba. On me dit que certains d'entre vous doutent de l'objectif. Mais la ville parle anglais. Nous y trouverons tous les soutiens possibles pour débarrasser Cuba des Espagnols. Notre marche triomphale commencera à Cardenas.
Mais ça n'a rien à voir. Il n'a pas voulu tenir compte des instructions nautiques. Je connais cette baie, j'ai pêché là-bas pendant 6 mois. C'est plein de récifs et le créole est bien trop gros. Autant aller s'empaler sur une ligne de défense, si tu veux mon avis.
Soldats! Le créole est échoué. Jetez les canots à la mer. 30 hommes par canot. Sitôt sur la plage que vous apercevez là, vous renvoyez les canots.
Et si on nous tire dessus?
Organisez-vous. Je vous place sous les ordres du lieutenant Fessou.
Fessou. Calendar Irvin Fessou. Un des futurs compagnons d'armes de William Walker.
Lui-même. 5 ans plus tard, il sera capitaine de l'unique bâtiment de guerre du Nicaragua sous les ordres de Walker.
Regardez! Ils sortent de chez eux avec des chemises rouges.
Des tissus rouges!
Oh, ils se raillent à nous!
On se battra pas?
Jusqu'à l'arrivée de 700 hommes de l'armée espagnole, en tout cas, dont la vue incitera les habitants de Cardenas à tourner casaque et à changer de chemise pour le dîner. Parce que 20 ans après la mort de Simon Bolivar, l'Espagne défendait avec rage ses dernières colonies américaines.
Vite ! Vite ! Il faut alléger le bateau. Soldats libérateurs, balancez tout par-dessus bord. Vos armes, votre pactage.
Le plus beau, c'est que notre ami Lopez remettra ça l'année suivante.
C'est un incorrigible optimiste, ton Lopez.
Oui, mais un peu refroidi tout de même quant à son propre génie tactique, le général Lopez embarque avec lui un stratège prestigieux, le colonel William Logan Crittenden, tout juste diplômé de West Point, mais qui a déjà eu l'occasion de s'illustrer lors de la guerre contre le Mexique. Le 3 août 1851, le vapeur Pampero prend la mer à la Nouvelle-Orléans avec 400 hommes à bord. Il accoste le 12 à Playa Honda, à l'ouest de la Havane. Mais au lieu d'une population enthousiaste qui voudrait se libérer des Espagnols, qui jetterait ses chapeaux de paille en l'air dans le ciel bleu, la troupe est accueillie par des coups de fusil.
Face à quoi, évidemment, même quand on est diplômé de West Point?
Oui, les diplômes, ça ne suffit pas toujours. Alors voilà. Le général Lopez a demandé à Crittenden de tenir la position pour protéger les armes et les munitions, en attendant les wagons qu'il ne manquera pas de lui faire parvenir dès sa prise de pouvoir à la Havane.
Ah oui, il s'y voit déjà.
Mais la seule chose que peut faire Crittenden à ce moment-là, c'est décrocher, donner l'ordre de se replier au petit bonheur vers le port de Morillo, où il réquisitionne 4 bateaux de pêche et s'enfuit avec ses rescapés. Là, le vapeur Habanero les rattrape. On négocie une reddition dans les formes.
Cette promesse que vous leur avez faite n'engageait que vous.
Mais enfin, ce n'est pas possible. C'est à ces conditions que j'ai obtenu leur reddition. Que vous importe la vie ou la mort de ces hommes stupides et manifestement inoffensifs. Si vous les faites fusiller, nous y perdrons notre honneur.
Et je vous dis, moi, capitaine général de Cuba, qu'ils seront fusillés. Crittenden est un soldat. Il pourra rester debout et choisir de porter ou non un bandeau. Les 50 mercenaires, en revanche, seront fusillés à genoux sur le pont de l'Esperanza, le regard tourné vers la Havane. Je me moque que l'on me dise parjure. Je veux effrayer tous les imbéciles de leur espèce. Ils sauront que Cuba est imprenable.
Après avoir livré de son côté une première bataille sans espoir à Las Posas, le général Lopez s'est dirigé vers la montagne et s'est replié avec sa troupe dans l'hacienda Cafetal de Freyas, qui avait été la sienne quelques années plus tôt avant sa ruine. À quoi rêve-t-il alors, ce général d'une armée perdue, qui revient après des années dans cette maison perdue, déchausse ses bottes, allume un cigare comme s'il rentrait du casino? Qui sont tous ces gens dans mon salon? S'était-il promis le soir où il avait perdu l'hacienda au poker de la récupérer par tous les moyens? Voulait-il relire une dernière fois un prénom gravé dans l'écorce d'un tronc? Savait-il que la partie était perdue d'avance et que l'hacienda ferait un bel endroit pour mourir? Espérait-il retrouver Crittenden et ses hommes sur la plage autour d'un barbecue, assis sur des barils de rhum, les filles et la musique cubaine coulant à flots? Plus tard, ils seront graciés par la reine et ces hommes en pleine débandade vont, à leur retour en Amérique centrale, former les premières troupes de William Walker au Nicaragua. Callander Irvin Fessou en fait partie.
On est parfois perdu dans sa propre vie, au point de ne plus chercher de porte de sortie. Et si, comme ces types, on réchappe miraculeusement à une aventure, on se jette à corps perdu dans la suivante. Il faut juste échapper à la mélancolie des survivants.
Peut-être le fumet des fantômes. Ses cheveux gris, son visage ridé et tuméfié. Avant de quitter ma chambre d'hôtel, allongé sur le drap, les mains rassemblées derrière la nuque, dans cette attitude supposée précéder ou suivre toute activité intellectuelle et qui, la plupart du temps, il faut bien le reconnaître, s'y substitue purement et simplement, j'avais revu, en contemplant le plafond, Victor, cet homme amnésique au visage cabossé, coiffé de sa casquette de joueur de baseball rouge vif à longue visière, vêtu de son vieil imperméable cramé, allongé près de moi, et qui déposait sur la commode, à côté du lit, la photographie en noir et blanc d'une femme inconnue. Sur la photographie que j'avais aperçue ce soir-là, debout contre la carafe d'alcool de Victor, sur une table de l'Hacienda de los Pescadores de la Libertad, au Salvador, la femme aux longs cheveux noirs, genre grande infante de Castille, ne souriait pas. Elle fixait l'objectif du fond d'un passé abîmé.
C'était
Pura Vida, vie et mort de William Walker,
de Patrick Deville.
Adaptation Arnaud Bertinat.
Troisième épisode
avec
Vincent Schmitt,
le narrateur,
François Perrache,
le client,
Bruno Pavio,
Sergio Ramirez,
Jean-Luc Debatisse,
le général Narciso Lopez,
Nicolas Gonzalez, Mathieu Lemonnier, Fabrice Herbeau,
les mercenaires,
Charlie Nelson,
Victor,
Franck Molinaro,
le marin,
Jean-Pierre Becker,
le capitaine général de Cuba,
Franck Desmet,
le commandant du Habanero,
Franck Lorrain,
un crieur militaire,
et Marina Moncade, Manuel Ulloa, Paola Corbe. Bruitage
Bertrand Amiel.
Conseillère littéraire
Emmanuel Chevalier.
Équipe de réalisation
Éric Villonfin, Mathieu Tourin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand.
Pura Vida, vie et mort de William Walker, de Patrick Deville, est publié aux éditions du Seuil. Hasta mañana.
À demain.